Bonjour, bienvenue sur Radio Méga. Je ne sais pas vous, mais cette semaine, je me sens un peu ballonné. Je crois que j'ai abusé du chili duirno que le chef du Lode nous a servi, mais j'oubliais, vous avez le bonjour d'Albert.
T'as le bonjour d'Albert, Cécile.
Bonjour Albert.
Eh ben bonjour Mémé Human, bonjour,
bonjour Rododou,
bonjour
Cécile,
les auditeurs.
Salut Mémé Human.
Eh bien oui, non, vous n'avez pas envie de faire une jolie balade en forêt ce dimanche? Parce qu'effectivement, le sujet du jour parle de quelque chose qui est parti très 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 loin dans le ciel et qui a atterri quelque part dans les Alpes.
Ouais.
Et nous allons parler effectivement de Albert, la balle en sonde lancée ce jeudi. Donc voilà, nous allons...
C'est pas le cinquième mousquetaire, c'est...
C'est le ballon. Mais tout de suite, passons à l'actualité.
L'actualité.
Alors, qu'est-ce qu'on a à l'actu cette semaine?
Oh là, plein de trucs.
Ça y est, le site prochain de l'alchimie est en ligne.
Eh oui, donc pensez à vous inscrire.
Et puis un joyeux anniversaire à Next Impact.
Ouais, qui fête ses 16 ans.
OpenSSH 8.0 est sorti. Parmi les nouveautés, SSH KeyGen augmente la taille par défaut des clés RSA à 3072 bits. Cela suit une recommandation du NIST émise dans la publication spéciale 800-57. Non, c'est pas comme ça.
C'est la fin de la phrase.
Je rigole. Également de nombreux correctifs et des améliorations de portabilité concernant Cygwin, la version pour Windows.
Et ouais, parce que vous pouvez aussi utiliser OpenSSH sur Windows. Et il y a aussi la sortie de Linux 5.1, donc la nouvelle version du noyau Linux, est sortie le 6 mai dernier après 7 release candidates.
Photoshop veut nous faire raquer. Selon Petapixel, il nous rapporte que Adobe teste la possibilité de doubler l'abonnement mensuel de son offre de photo pour les photographes qui passerait alors de 10 à 20 dollars. Oh, mais ça c'est par mois.
Et bah ouais, mais si c'est pas gratuit, bah tu payes. C'est logique.
Ça, c'est clair.
L'Atari Coldfire Project Firebee donne des nouvelles. Malgré des soucis logistiques, ils tiennent bon et se préparent à livrer la deuxième fournée de machines. Des précommandes sont déjà ouvertes pour la troisième fournée, mais ils préviennent qu'elle ne sera pas disponible avant 2020.
Yamaha demande si vous voulez une réédition du synthétiseur CS80. Alors pour une fois qu'on nous demande notre avis, n'hésitez pas.
Oui, oui, oui. Eh mais oui. Et les élections européennes approchent. On ne va pas vous dire pour qui on va voter, hein, bien sûr, hein, surtout pas de parti pirate. Par contre, peut-être que vous ne saviez pas que certaines listes n'ont pas de budget pour imprimer leur bulletin, auquel cas, vous pouvez l'imprimer par vous-même et en laisser d'autres exemplaires dans votre bureau de vote. C'est le cas du parti pirate, par exemple. Il vous faut, par contre, un papier 70 grammes obligatoirement, même s'il est compliqué à trouver, et c'est très probable et fait exprès. Hein. La loi a été modifiée alors qu'elle autorisait du papier de 60 à 80 grammes auparavant. Mais sinon, tous les candidats ont les mêmes chances. Hein,
oui, oui, tous ceux qui ont les moyens de se payer l'impression.
Voilà.
La Commission
européenne adopte les licences CC4 BY et CC0 pour ses publications d'information. CC, c'est Creative Commons. Donc la licence Creative Commons avec attribution sera utilisée et la licence CC0 équivalente à un domaine public volontaire sera privilégiée pour les données brutes et métadonnées. J'ai eu du mal à partir sur cette news parce que je pensais à certains partis qui sont des gros partis, on va dire habituellement, oui, qui ne se sont même pas présentés parce que ça coûtait trop cher en budget. C'était ça qui me venait à l'esprit. Donc il y a certains partis qui sont d'habitude au présidentiel. Hein, mais
c'était le PS, le post-scriptum.
D'accord.
C'est ça?
Mais oui.
Sinon, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, le moteur de recherche, toujours sur les Creative Commons, le moteur de recherche CC Search sort de bêta. En parlant donc de Creative Commons, ce moteur de recherche est disponible en version stable et propose 300 millions d'images sous licence Creative Commons.
Publication du socle interministériel de logiciels libres version 2019. La version 2019 du CIL est arrivée avec des nouvelles recommandations pour les administrations. Numérama prévient qu'il s'agit encore d'une version de travail. Enfin, si seulement les administrations suivaient les recommandations au lieu de contracter des accords open bar avec Microsoft.
Ouais, mais ça se saurait, hein.
Bah oui.
publication de GNU Gwix 1.0.0.
Gwix.
Après 7 ans de travail, le gestionnaire de paquets Gwix arrive en version 1.0. C'est un gestionnaire de paquets transactionnel et un système de distribution libre.
Gwix. Ouais, c'est écrit en scheme, tout ça. Qu'est-ce qu'on a ? Ah bah, sortie du numéro 143 en français du magazine Full Circle. Donc, c'est un magazine dédié à la distribution Ubuntu avec un format original puisque c'est un A4 paysage. Et puis il y a plein de trucs, des tutoriels, une série sur BSD, des critiques, voilà, un entretien, et puis une série sur le RGPD, tiens donc. Voilà, voilà pour les infos.
Eh bien c'est tout, merci, et puis nous faisons une petite pause pour se retrouver tout de suite après pour notre sujet du jour avec Albert.
Quix.
Quix. C'était la musique extraite d'une démo Amiga qui a gagné à la révision de cette année. Donc c'était The Black Tesus Eon. Donc voilà, une jolie démo à voir et à apprécier sur Amiga. Voilà, tout le monde a bien aimé. Et ouais. Voilà, nous allons passer au sujet du jour.
Et oui, donc le sujet du jour, c'est le lancement de Albert, le cinquième... Non, c'est pas le cinquième mousquetaire, donc on l'a dit, c'est le ballon-sonde. De l'IUT entre autres hein, parce que c'est un projet qui est fait avec un lycée à Romans et puis le LOD aussi, donc on a préparé un petit reportage pour vous.
Nous sommes en compagnie de Nicolas, il va nous présenter son projet qui est en train de se finir aujourd'hui.
Donc le projet que nous avons mené donc avec l'IUT de Valence. Donc moi et mon équipe donc de Clément et de Loïc. Donc nous sommes trois étudiants de l'IUT de Valence et donc nous avons eu pour projet cette année de faire une télécommande pour le ballon stratosphérique. Le ballon stratosphérique qui lui est mené par donc le LOD, l'IUT de Valence, en partenariat avec Planète Science et évidemment tout le pôle Brifo. Et donc cette année, nous avons eu, donc, comme je vous l'ai dit, pour mission de créer une télécommande pour ce ballon stratosphérique. Alors quelle serait l'utilité d'une télécommande? Ce n'est pas comme pour la télévision, il y a quelque chose supplémentaire que nous avons rajouté. Il faut savoir que cette année, le ballon stratosphérique de l'IUT de Valence, il faut savoir que c'est sa 11e année qui sera lancée. Et donc nous avons voulu faire quelque chose de nouveau. Et nous avons ajouté une nacelle auxiliaire. Donc il y a la nacelle principale qui, elle, va voler jusqu'à des altitudes qui dépassent les 25 km parfois, même peut-être 30, non.
Pas tôt. On n'est pas loin du 30, je
pas
crois.
Pas loin du 30 km.
Pas loin, hein. Bon, on verra bien. Hein. Oui. on va suivre en direct.
Si la chance nous sourit. Et donc cette nacelle principale va s'en aller très très haut. Et donc nous avons eu pour mission de faire une petite nacelle largable qui serait en dessous de cette nacelle principale. Et via notre majestueuse télécommande sur ordinateur, nous pourrions commander le largage de cette petite nacelle dans les 5 minutes après le lancer, ce qui fait qu'elle serait larguée aux alentours de 1 km d'altitude. Et évidemment, avec un petit parachute, elle retomberait sur le sol.
Et alors celle-là, elle sera plus facile à retrouver que oui. L'autre. Parce que on vient de faire des simulations là, pour, en fonction de la vitesse du vent, suivant l'altitude et donc le profil du vol. Parce que, alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, le principe, c'est qu'on a une nacelle qui est en polystyrène, hein, pour pas que ça fasse mal si ça tombe sur quelqu'un, avec un gros ballon en hélium qu'on va gonfler, et puis un petit parachute, et donc on va la laisser s'envoler jeudi. Elle va monter, le ballon il va grossir, parce que bah, avec l'altitude, la pression baisse, et donc en fait la pression à l'intérieur fait que le gaz se détend et puis le ballon gonfle et puis au bout d'un moment le ballon il va craquer et donc là elle va commencer la nacelle à retomber avec le parachute comme tu as dit et selon les estimations elle va tomber pas très loin de la frontière italienne donc en pleine montagne et c'est pas sûr qu'on arrive à la retrouver les années précédentes c'était un petit peu compliqué certaines fois d'arriver à la retrouver on avait dû faire appel à d'autres personnes à des gendarmes tout ça donc bon c'est pas gagné, mais au moins on en aura une partie qui va retomber pas trop loin, donc c'est voilà. Une bonne idée. Ouais.
Il n'y aura pas 100% de perte. Quoi.
Mais du coup, à quoi sert cette télécommande du coup? J'aimerais bien savoir le principe. Qu'est-ce que vous aviez envisagé dans cette télécommande? Pourquoi?
Alors, donc, selon le cahier des charges que nous a fourni le LOD, nous avions pour mission principale qui était de localiser cette petite nacelle, évidemment, et de commander le largage. Voilà, c'est les deux principales fonctions du cahier des charges. Et nous, ce que nous avons implémenté dans le logiciel, donc c'est ces deux fonctions, évidemment, et quelques petites choses supplémentaires qui sont donc d'avoir un tableau qui s'actualise toutes les 5 secondes avec les dernières données de la position. Donc, nous avons la date, l'heure, la position GPS, l'altitude et le nombre de satellites. Nous avons implémenté des fonctions telles que le test, si la nacelle est présente ou non, évidemment, voir si le lien n'est pas rompu entre les deux. Nous avons fait aussi le système de confirmation de largage, c'est-à-dire que nous avons mis un petit fil entre la nacelle principale et la petite nacelle qui va être larguée, afin de, dès lorsqu'elle serait larguée, le petit fil s'arracherait, et donc nous aurions une confirmation de largage propre et efficace pour confirmer au sol que c'est bien en train de se larguer. Et nous avons aussi implémenté des petites fonctions qui permettent d'exporter les données afin de les voir sur un tableur type Excel ou même format le super format de chez Google, Google Earth, afin de simplement l'ouvrir et voir le petit trajet sur la carte de la petite nacelle.
Ouais, et ça va être tout mignon ça. Donc on pourra effectivement déclencher avec la télécommande, déclencher le largage de la petite nacelle. Et la récupérer puisqu'elle va nous envoyer sa position, tout comme fait la grosse nacelle en fait, en espérant que le récepteur GPS ne tombe pas en panne, qu'il envoie bien les données, parce que de mémoire, je ne sais plus, il y a quelques années, on avait les deux GPS qui étaient tombés en panne en même temps, donc c'était compliqué pour suivre. Mais bon, on croise les doigts hein, et puis on verra bien ce que ça donne.
Est-ce que l'événement, du coup, on va le suivre par Internet directement?
Alors, je sais que chaque année, l'IUT met en place une petite interface web pour laquelle vous pouvez accéder via un simple lien. Vous aurez une carte avec la position en direct de la nacelle et il me semble aussi les capteurs, c'est-à-dire température, humidité, tout ça à des altitudes incroyables et des valeurs qui sont parfois assez surprenantes à regarder.
Est-ce qu'il y a une caméra qui est embarquée dedans ?
Oui, tout à fait. Alors, à mes souvenirs, il y a deux petites caméras sur la nacelle principale, une qui filme le sol et une peut-être un peu plus le ciel, faudrait se renseigner. Et une petite caméra sur la petite nacelle auxiliaire qui va être larguée, qui, elle, fixe directement le sol et sera la première à toucher le sol aussi. Je ne sais pas trop dans quel état elle va se retrouver. Mais bon, si le parachute il est bien et qu'elle est assez légère, ça devrait aller.
Oui, ce n'est pas une science exacte. Hein. On monte des trucs, des bouts de polystyrène et puis on croise des doigts.
Est-ce que la technologie souffre du froid qu'il y a là-haut ?
Oui, alors tout à fait. Alors, je n'ai pas assez d'expérience dans les histoires passées au niveau de la nacelle, mais il faut savoir que... on est à des dizaines de kilomètres d'altitude, donc c'est la stratosphère si je ne me trompe pas. Et donc les températures sont de moins 30 degrés peut-être, en extérieur en tout cas. Et à l'intérieur, l'avantage du polystyrène, c'est qu'il est très isolant. Et ce qui fait que toute l'électronique est à l'intérieur, les batteries. Donc elles souffrent, mais moins que si elles étaient directement exposées à l'extérieur.
Alors sinon, après, il faut mettre des packs chauffants, des trucs comme ça. Alors j'ai vu récemment des photos de sondes qui sont envoyées genre aux USA pour la météo, où ils mettent effectivement des packs chauffants à côté des piles. Mais ouais, voilà, il faut penser à ça, parce que sinon, on envoie un truc et puis ça marche pas, parce que juste c'est trop froid.
Et pour le coup, vous êtes obligé de prévenir Chabek, vous êtes en train de larguer quelque chose dans le ciel, parce que j'imagine que ça peut gêner un avion.
Ah oui, alors il faut savoir que Planète Science est au courant et évidemment le ballon, c'est surtout la nacelle nous avons un cahier des charges plutôt strict. En tout cas, on a un poids maximum qui est de 1,6 kg si je me trompe pas. Mais c'est surtout la taille en fait, il y a une taille minimum à la nacelle. Tout simplement parce qu'en fait les avions lorsqu'ils passent, il faut faire en sorte que leur radar puisse détecter l'objet, et si l'objet est trop petit, eh bien évidemment il ne sera pas détecté des radars. Donc le but, c'est qu'il soit le plus grand possible, qu'il soit d'une taille à peu près la taille, je ne sais pas, d'un écran d'ordinateur, quelque chose comme ça. C'est assez suffisant pour détecter par les avions. Et aussi des contraintes toutes simples mais qui sont importantes à prendre en compte, c'est les cordes qui relient le parachute à la nacelle. Il faut qu'elles soient suffisamment fragiles pour qu'elles puissent être facilement sectionnées en cas de collision éventuelle avec un avion de ligne. Donc c'est assez flippant, on espère que ça n'arrivera pas, mais bon, pour le peu de temps qu'elle passe à l'altitude des avions de ligne, normalement ça devrait bien se passer.
Et les oiseaux ?
On n'y a pas pensé, mais bon, après, elle va pas bien vite. Au pire, ils se posent dessus, puis ils peuvent se promener.
Alors, en général, les oiseaux sont plus agiles que les avions pour éviter ces choses-là. Normalement, il y a un réflecteur radar quand même aussi qui est en papier d'alu, entre le ballon et le parachute. Mais oui, il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Il y a le polystyrène, il y a des choses qu'on ne doit pas mettre en dehors de la nacelle, parce que si ça tombe sur quelqu'un, ça fait mal. Aussi, donc une fenêtre en fait de tir, hein, on a le droit de lancer à une certaine date, à une certaine heure, justement en fonction des avions, en fonction aussi des canaux radio qu'on a le droit d'utiliser, parce que la balise, il y a une partie en fait, une des balises qui est dedans, qui nous est fournie par Planète Science, donc en fait c'est leur matériel qu'on embarque. Et donc on a le droit de l'utiliser pendant un certain temps, à une certaine date.
Eh bien, on souhaite bonne chance à cette sonde. Et vous lui avez donné un nom ou un projet ?
C'est Albert, c'est ça ? Albert.
C'est Albert cette année, ouais.
Et pourquoi c'est Albert d'ailleurs ? Moi,
je sais pas, on va demander à Sébastien Jean.
Allez, on va lui demander.
On est à quelques secondes de l'envol d'Albert. Bonjour Sébastien.
Oui, bonjour François.
Pas trop stressé ?
Un peu, comme d'habitude. Mais ça ira mieux après.
Bon, tout est assemblé. Là, on a le gros ballon, qui fait près de 2 mètres de diamètre, qui est bien gonflé avec de l'hélium. On a le gros parachute, le réflecteur radar, on a la grosse boîte, un autre parachute, et puis une autre petite boîte qui va être larguée un petit peu plus tard, juste après le décollage.
Go!
vient de larguer la petite nacelle. Je suis en compagnie de quelques élèves du lycée Triboulet de Romans, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Donc vous avez participé à la construction de ce ballon. Qu'est-ce que vous avez fait pour ce ballon ?
Bah, on a construit les capteurs qu'on devait mettre dans la nacelle. Et aussi la nacelle, on a fait un peu. Et après, on a testé, on a fait quelques mesures pour les capteurs, voilà, la luminosité. L'humidité, je crois, il me semble.
Oui, l'humidité, ouais.
L'humidité.
Ouais, je vois qu'il y a des anti-sèches là, c'est bien.
Et après, on va, quand le ballon il va redescendre, on va voir les mesures qu'ils ont prises et on va comparer avec celles qu'on avait fait à peu près. Et voilà.
Ok, et là, bah, on va retourner à l'IUT pour poursuivre un petit peu le tracé du ballon.
Oui.
Sur la carte ?
Ouais,
oui. Si le GPS fonctionne, hein, parce qu'il y a certaines années où ça ne marchait pas.
Bien, et bien. Alors, qu'en est-il de ce ballon ?
Alors, et ben, ce ballon, j'ai dit dans le reportage si ça marche. Et alors, comme par hasard, il y a un truc qui n'a pas marché. Parce que la balise, la Kikiwi, la balise qui nous est fournie hein, par Planète Science, elle n'a pas marché. Alors, soit elle n'a pas démarré correctement, soit on ne sait pas trop. Il y a quand même une autre balise qui était dedans, en fait, donc avec un lien sur des fréquences LoRa, donc c'est un réseau pour les objets connectés.
Oui.
Et donc avec ça, on n'avait pas l'altitude, mais on avait la position, donc on a quand même pu la suivre sur la carte. Et donc, c'est en fait le ballon, il est atterri à Méolan-Revel.
Donc c'est sur les hauteurs de Gap.
Voilà, donc il bah, y en a qui vont crapahuter ce week-end, ce dimanche, pour aller le rechercher, le ballon.
Eh bien, c'était un chouette sujet, très, très intéressant. Moi, j'ai adoré, franchement, de voir cet enthousiasme face à ce ballon qui est parti loin, tout là-haut dans le ciel. Petite pause musicale avant l'agenda.
À tout de suite.
Bien, c'est une musique qui donne envie de courir, mais surtout, c'est la musique de l'invitro de la VIP 2019. La musique est de Squirtune Magician, donc un ami qu'on connaît, et l'animation vidéo de Coyote à voir sur YouTube. Et nous laisserons bien sûr les liens sur AAA.fr. Mais
comme d'habitude,
la VIP, c'est une démo partie qui se déroule le fin juin. Donc voilà, je vous laisse pour l'agenda de cette semaine. Rappelons que l'agenda et celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi.
Et ouais. Qu'est-ce qu'on a? Alors, permanence au log, laboratoire ouvert grenoblois avec résine et grésille. Donc, c'est par les bénévoles de la guilde. C'est le mardi 14 mai à 19h. Donc, au log 45 rue Nicolas Chaurier à Grenoble.
Let's Goûter, co-organisé avec Let's Co à Cray le 14 mai prochain autour du web des données, les Linked Open Data, projet Data Food Consortium et enjeux des standards pour le changement d'échelle des circuits courts. Plus d'infos à suivre.
Ouais, donc oui. Ça c'est le 14 mai à Cray, on n'a pas toutes les infos, mais c'est un petit doigt qui me l'a dit, donc dès qu'on a des infos, on vous mettra en ligne. Et puis il y a aussi...
Le coding dojo avec AAD.
ADD, c'est Ardèche Drôme Dev.
D'accord, en même temps qu'une séance du lot, donc des infos sont à venir. Donc c'est le 16 mai à l'UT de Valence.
Et puis il y a Numérigeek, donc jeu de piste, la chasse aux infox. Pour aller au bout de ce jeu de piste, pour petits et grands, sauras-tu discerner les fausses informations? Donc ça c'est dès 8 ans sur inscription. Donc samedi 18 mai 2019 de 14h à 16h, ouais, à la médiathèque publique universitaire à Valence.
Mission graphisme open source, la forge collective, par l'intermédiaire d'un document existant que vous créerez sur les 3 jours, vous découvrirez les outils et techniques nécessaires à votre propre communication. Donc c'est sur inscription les 20, 21 et 22 mai de 9h à 18h à la forge collective, 8 rue Baudin, Valence.
Qu'est-ce que c'est astrologique?
Mais oui, on frotte la boule, alors ah. que dit-elle? Attention. Alors, Makune, iPad 1, iPad 2, iPad 3, iPad 4... Ah, j'apprends l'anglais avec la tablette.
Demo Maker, putain, laisse tomber le niveau en shader, on n'a plus qu'à passer au shader.
Codeur, savoir sortir de ses fonctions, c'est un savoir-être.
Amiguiste, ah bah non, mon chat a cassé le moniteur et il voulait jouer avec la bong ball.
Musicien, bon là, le son est vraiment nul. Ah bah si tu veux plus de son, il faut mettre plus de blé.
Électronicien, il vaut mieux saisir les soudures quand les pannes sont chaudes.
Eh bien, militaire, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. La semaine prochaine, nous vous proposons une émission tout à fait spéciale pour vous parler de frais ou de fausses informations.
Lama fâché?
Ah.
You are fake news.
Eh bien, à très bientôt sur les ondes de Radio Méga. À bientôt, bye bye.
Bye bye.
Bye bye.